Raymond Gabart, bonjour. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Mémoire du Couseran. Et aujourd'hui, on va fêter Carnaval.
Eh bien, si le printemps est là, du moins sur le calendrier, cette semaine s'annonce plus fraîche à l'année déjà, et surtout plus venteuse, ce qui ne va pas nous empêcher de festoyer ensemble, comme promis. Alors, déguisé ou pas, masqué ou pas, eh bien, tout le monde participe. Et oui, parce que c'est des carnavals qu'on a pu connaître, nos ancêtres, et là, ça se fait plus depuis un certain temps, voilà. Donc, bonjour, alors, bonjour, et puis suivez-moi pour nous replonger dans ce que fut très longtemps, quand même, une tradition festive qui amusait petits et grands dans nos villes et nos campagnes avec la célébration de carnaval. Et alors, qu'est-ce qu'au carnaval? Alors, c'est une invitation des bacchanales, des anciens, ce qui restait des fêtes populaires de nos aïeux, comme la fête des fous. Ben oui, ça découle de la fête des fous. Et alors, le jeudi de la troisième semaine du carême, sont célébrés par célébrés du moins des grandes fêtes qui remontent, je suis allé assez loin, au 15e siècle, et c'était organisé par d'abord des étudiants. La mi-carême devint à Paris ainsi une fête des marchands des halles aussi, des petits métiers, des blanchisseuses, parmi lesquelles on élisait une reine. Et dans nos régions, le goût du déguisement, et puis surtout de la dérision, est bien ancré dans toutes les communes, de la plus petite au chef-lieu, où se déroulait toutes sortes d'ailleurs de fêtes relativement bruyantes. Et ça pourrait être soit un simple bal, ou jusqu'à un charivari. Et je pense que vous savez ce que c'est le charivari, qui s'est fait très longtemps d'ailleurs. Et c'était quand même gentil, voilà. Alors très fréquent dans nos villages, en passant bien entendu par des cavalcades, et au tout début du siècle dernier, même avant, à l'avant-dernier siècle, toutes les couches de la population, des classes les plus aisées d'ailleurs jusqu'aux plus misérables, participaient à ces réjouissances. Mais ces déguisements, au demeurant très prisés, n'auraient pas toujours un côté festif. Et à ce sujet, souvenez-vous de ces paysans, donc, surtout du Couseran, déguisés, avec des chemises de nuit blanches, le visage barbouillé de suie, et ce s'était passé dans les années 1829, 1830 à peu près, et qui s'était révolté contre l'administration, donc, surtout des eaux et forêts, s'estimant agressé, c'est le cas de le dire, par le nouveau code, le nouveau code forestier, ces conflits qui ont duré plusieurs années et que l'on avait baptisé, c'est relativement célèbre et puis connu, la guerre des demoiselles. Et oui, vous voyez, c'était pas là, le déguisement n'était pas fait pour festoyer, comme on peut le voir. Et alors, ce carnaval, quand même, il faut reconnaître que c'était sérieux. C'était sérieux, traditionnel, et puisque ces fêtes s'inscrivent dans le cycle du calendrier entre la dernière lune d'hiver et l'équinoxe du printemps. Et c'est ainsi qu'on marque symboliquement le passage de la mort au réveil de la nature. Et en ce mois de Mardi Gras ou de Carême, on célèbre Sa Majesté Carnaval dans tous les coins de France. Mais savez-vous ce qu'un véritable cavalier est? Eh bien, pour recevoir ce titre de maître, il devait pouvoir concevoir, sculpter, peindre, dessiner pour réaliser chars et grosses têtes. Et c'était professionnel d'ailleurs ou amateur. Il suffisait qu'ils aient cet engouement et puis surtout la capacité de le faire, car au final c'était de véritables artistes. Alors, ainsi longtemps en France, et bien sûr avec des moyens différents, villages, petites villes ou grandes cités, rivalisaient d'ingéniosité pour faire la fête et réaliser, entre parenthèses, sa cavalcade. Et pour ne pas manquer à cette tradition, la capitale du Couserans a été de nombreuses années le cadre de grandioses fêtes à l'occasion de la mi-carême du Mardi Gras, qui donnait lieu à des bals masqués dans les établissements de la ville. En principe, c'était les cafés qui avaient toutes des grandes salles. Et ici, au début du siècle dernier, bien avant d'ailleurs, je remonte un peu plus loin, les principaux donc, cafés de Saint-Jérôme, qui possédaient pour la plupart de très grandes salles, transformaient donc ces dernières en salles de bal. Et c'est ainsi que j'ai retrouvé en 1887, puis sur les journaux, hein, 1895, plusieurs articles que j'ai pu relever dans la presse locale. Et ces articles étaient, qui évoquaient d'ailleurs ces réjouissances, très suivis. Et ici, dans un autre périodique saint-gironais, celui-là, il était très précisément du 17 mars 1907, le journaliste écrivait, alors je cite, « Au milieu d'une affluence considérable, les populations voisines étant accourues la veille vers 2 heures de l'après-midi, la cavalcade quittait les vastes garages de l'hôtel Échène, c'est-à-dire les cours, tout ça, et se répandait dans les grandes artères de la ville, pavoisées, enguirlandées, et alors particulièrement remarquées, il ajoutait, les élégantes donc, bicyclettes fleuries, les chars des muses qui avaient pris place les virtuoses musiciens, donc qui se déplaçaient sur le truc, notamment ceux de Lustigiantina. Nous sommes en 1907, donc il y avait déjà une studentina à Saint-Jérôme. Et alors, tous travestis d'élégants costumes, mais également aussi, j'ai retrouvé un peu avant, donc, pour l'année 1890. Alors, cette année 1890, on peut quand même ajouter que ça a perduré fort longtemps, hein. C'est pour ça que des fois je reviens en arrière. Cette année-là, donc, on célébrait carnaval à Saint-Jérôme, et la particularité avait été que la plupart des grands cafés de la ville, et je pense qu'ils étaient une bonne quinzaine, organisaient à cette occasion de nombreux bals masqués. Hein, chaque café organisait son bal, et c'est ainsi qu'au café Amade, alors pour le situer, il se situe au pont du Lès, et on l'a connu, nous, sous le nom de Café Balaguer, bien connu, et qui va d'ailleurs disparaître bien plus tard pour faire place à une banque, comme beaucoup de cafés à Saint-Jérôme. Et alors, il y avait une grande salle qui accueillait la jeunesse travestie au son d'un petit orchestre improvisé, et on y dansait jusqu'à épuisement. Et tout le quartier donc, de la gare, de l'avenue Maréchal Foch également, était au rendez-vous. En ville, au Champ de Mars, c'était le Café Fraîche. Alors, le Café Fraîche, qui est devenu, sous le nom connu de le Café de l'Union, le Café Méric, qui était envahi par les festaires. Sur le Pont Vieux, on pouvait croiser des groupes de travestis qui rejoignaient la rue Villefranche aussi, où il y avait la salle des variétés. Et alors, cette salle des variétés, c'était le Café Pouèche. Alors, c'était place des Esquives, à côté il y a eu le cinéma, l'Olympia, je situe, vous voyez, pour les gens qui ont connu, alors qui savaient en guirlandais de l'extérieur, donc c'était magnifiquement décoré, avec de la verdure, des fleurs artificielles ou en papier, des lampions multicolores, et puis également il y avait une autre salle. Alors cette autre salle, c'était la salle de l'Éden. Alors la salle de l'Éden, qui était connue donc à l'époque, c'était la plus grande salle de fête, et je vais vous la situer, parce que personne ne sait où c'est ça, elle était donc au milieu de la rue de la Franche, et elle a connu d'ailleurs une importante activité dans les années 50 après-guerre 47, sous le nom du Rex, et vous voyez, ça vous situe bien donc on l'a bien connu, qui est devenu plus tard le Scotch, en 60 à peu près. Et alors, la plupart du temps, quand même, dans ces bals, c'était des musiciens amateurs qui mettait l'ambiance qu'il fallait, d'autant que jeunes et moins jeunes, disons, aimaient danser. Et c'est une musique dansante. Alors, il faut ajouter que l'on mettait un point d'honneur quand même à se costumer également, et que certains déguisements fort jolis et colorés faisaient l'émerveillement de tous. Et alors, dans certains cafés, c'était au son aussi d'un phonographe, et c'est un énorme photographe, ou encore chez Déda. Alors Déda, c'était la place de la volaille, et le café Déda, c'était le café de l'univers. Moi, j'ajoute entre parenthèses tout un univers. Et c'était le quartier du Valaisjou. Et là, c'était un piano mécanique. Moi, j'avais été longtemps amoureux de ce piano mécanique, et qui assurait l'ambiance. On y mettait un jeton, et puis voilà. Alors, l'attraction aussi, c'était le Café Moderne. Café Moderne, place Gambetta, et à côté de la pharmacie, et puis où il y a l'actuel, la boucherie Loubet. Le propriétaire était Monsieur Morère, et lui, il avait fait l'acquisition du dernier phonographe, un pâté concert qu'on appelle, qui était énorme, dans son meuble, et il y avait un pavillon à peu près à un énorme pavillon à 1m50, 1m60 donc, et sur son fronton, qui était décoré de grands motifs en zinc repoussé, vous voyez, j'avais eu un détail là-dessus, et qui avait été signé d'ailleurs Legrand d'ailleurs, qui était une fabrique en région parisienne. Voilà. Et alors, la partie du pavillon était ornée d'une lyre. Et c'est un moteur électrique, déjà, qui alimentait le plateau sur lequel il était possible de passer des disques en 78 tours minute, qui tournaient, mais d'un diamètre assez important, d'ailleurs. Je crois que j'en ai qu'un, moi, comme ça, de 50 cm. Et c'était énorme comme disque, donc il durait 4-5 minutes. Et alors cet appareil fonctionnait avec un monnayeur et des jetons en cuivre de 23 mm de diamètre, donc, ou alors avec des pièces de l'époque donc, de 10 centimes. Et on mettait un jeton et puis paf, on renouvelait la musique comme ça, comme dans le piano mécanique. Et justement cette année-là, et nous sommes en 1913, parmi les nombreux chars, il y avait celui qui représentait un énorme photographe et qui était juché sur une charrette fleurie tirée par un cheval. Alors moi j'ai réussi, mais il y a peut-être 30 ans ou 35, à récupérer trois plaques de verre qui représentent, que j'avais fait développer donc, en photo, qui représentent ce fameux phonographe dont je vous parle. Vous voyez la coïncidence, je l'avais lu dans un quotidien de l'époque et j'ai retrouvé la photo correspondante. Et alors on pouvait remarquer sur la même photo, les mêmes photos, une foule énorme de curieux qui se pressaient autour, bien entendu, et ils se situaient très précisément au boulevard Saint-Vallier, pas loin de l'hôpital, voilà, de l'ancien hôpital. Et alors l'année suivante, également, il y avait eu un grandiose bal masqué qui enfambla la nouvelle salle de spectacle de l'avenue d'Olotte, et là, cette fameuse salle du skating. Qui avait été réalisé grâce à une dame, d'ailleurs, à l'époque, qui s'appelait Madame Mitchell, voilà. D'ailleurs, à ce sujet, comme on aurait pu fêter le 110e anniversaire l'an dernier, donc, en début d'année, là, je vous ferai l'historique, c'est fabuleux, cette salle. J'en reparlerai à la fin, un peu. Et alors, jeunes et moins jeunes, d'ailleurs, pendant des années, on festoyait là-dedans. Et alors, les jeunes même étaient travestis dans des costumes les plus variés, la colombine, le garde-champêtre, le toréador, Harlequin, la sorcière, les vieux mariés, c'était épique ça aussi, ou encore le bedeau. Alors on se plaisait donc, comme on dit, à se donner en spectacle. Et alors très remarqué, c'était l'arrivée d'une réplique, très approximative quand même, du monoplane de Gibert. Et Gibert qui, deux ans auparavant, en 1911, avait fait la première fête de l'aviation à Saint-Girons et la première de l'Ariège. Voilà. Et alors c'était à partir d'un vélo avec une hélice et des ailes en osier et du papier, vous voyez. Alors c'est un véritable fou volant, comme on pouvait dire. Et alors quelques années plus tard, les défilés, toujours aussi pittoresques d'ailleurs, vont se, comme on dit, se motoriser et dont les chars vont prendre de l'envergure. Et c'est ainsi que l'année 1908, une grande cavalcade va parcourir toute la ville. Et écoutez bien, elle était composée de 28 chars fleuris. Vous vous rendez compte, de 28 chars fleuris, avec les mille et une nuits, la brouette géante, les chefs cuistaux, en tenue, toque blanche, bien sûr, la reine de Saba, les petits pierrots au clair de lune, une lune géante d'ailleurs, l'attelage de la duchesse, le bateau ivre, forcément, la Begum et sa suite, les nombreux véhicules torpédos, trèfles, ainsi que des attelages magnifiquement fleuris. Alors tout ce défilé, après avoir descendu la rue Villefranche, grossièrement goudronné d'ailleurs, ou même pas, vous voyez, on peut le remarquer, parce que là aussi j'ai des photos, on retrouvait place des Esquives, noire de monde, devant le café des variétés, donc je vous ai cité tout à l'heure, où il y avait la salle, où se trouvait donc, cette fameuse salle de fête, et qui est entre autres été cette année-là le siège du comité Carnaval Premier. Et alors ce café, dont le propriétaire était à l'époque Monsieur Soum, était l'ancien café donc que se trouvait à côté également de Monsieur Fort Perdigou. Il y avait 3-4 cafés dans ce rayon. Et alors, disons, toutes ces descriptions que je vous donne, et je pourrais vous détailler davantage, mais le temps ne peut pas s'y prêter, je l'ai fait d'après une bonne vingtaine de photos que j'avais trouvées il y a plusieurs années, et qui sont quand même un véritable témoignage de ces fêtes de Mardi Gras qu'a connu la capitale de Saint-Girons, hein, du Couserans. Et c'est vrai que, ainsi, on peut dire que ces fêtes énormes, moi je dis que c'était énorme, ces fêtes vont se poursuivre jusqu'à connaître donc toujours autant de succès d'ailleurs, hein, autant de succès, mais bon, jusqu'aux années 30-35 à peu près, il y a eu des fêtes dans ce style. Par contre, après, bon, il y a eu la guerre. Et forcément, ça a laissé des traces, la guerre. Donc, ces fêtes ne reprendront que bien plus tard. Donc, c'est pour ça que j'ai envisagé de faire une deuxième émission. Et vous verrez, je vais évoquer d'ailleurs, dans ces quatre émissions, ces grandes manifestations festives qui attiraient des dizaines de milliers de visiteurs. J'avais trouvé sur un journal, c'était entre 15 et 20 000 visiteurs qui venaient pour la journée, parce que des fois ça se passait sur 2-3 jours également, mais rien qu'en une journée, une quinzaine. Alors à l'époque, les gens venaient avec des autocars, il y en avait jusqu'à une quinzaine ou une vingtaine. Il y avait des trains spéciaux, bien entendu, il y avait déjà des voitures, pas mal de voitures dont les gens venaient en voiture, et c'est qui donc ramenait sur Saint-Girons où les restaurants, les cafés, enfin tout, c'était vraiment bondé partout et avec ses fêtes. Et alors, je vous parlerai notamment de la première fête, de la première cavalcade, d'ailleurs qui n'avait pas de rapport avec Carnaval, parce que ça s'était passé en juillet 1947. Et c'était le maire Fernand Loubet qui avait tenu, après ces années donc, de restrictions, de redémarrer une fête assez grandiose. Et donc ça s'était passé le 30 juillet, en même temps que les grandes fêtes de Saint-Girons. Et vous verrez là aussi, il y avait une sacrée ambiance. Voilà, donc ça, c'est, bien entendu, c'est plus près de nous, ce qui rappellera, j'espère, encore quelques souvenirs nostalgiques et de ces périodes fastes pour ce Saint-Girons, mon beau pays, que nous ne pouvons que regretter, voilà, n'en déplaise à certains, hein, qui sont une minorité. On ne peut que regretter quand on a connu ça, donc on s'ennuie un peu. Et alors, c'est vrai qu'il y en a qui ne regrettent pas, ou c'est très bien aujourd'hui, parce que, bon, peut-être ils se complaisent dans une attitude de déni, voilà. Alors à tous les auditeurs, disons, passionnés et par ces rendez-vous de mémoire du Couserans, la semaine prochaine, eh bien, on continue à faire la fête et la cavalcade.